RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct du plateau de Bayeux ce soir à l'issue de la 15e étape de ce Tour de France. C'était la 2e étape dans les Pyrénées et on a vu ce qu'on a vu. Pogacar, eh bien le cador de ce Tour de France, il s'impose pour la 3e fois depuis le départ de la Grande Boucle à Florence il y a un peu plus de 2 semaines et il est ce soir quasiment le vainqueur de ce Tour de France. On est encore à 1 semaine de l'arrivée mais on se posera la question de savoir si le Tour est plié. Pogacar qui a été énorme une nouvelle fois aujourd'hui, qui n'a pas fait la moindre erreur de tactique, qui est restée dans la roue des coureurs de la formation Visma, qui ont décidé de visser tout au long de la journée avant que Vingegaard ne prenne le manche à quelques kilomètres de l'arrivée dans le plateau de Bayeux et avant surtout que Pogacar ne mette les watts et n'envoie tous ses adversaires très loin au classement général. On va évidemment revenir sur cette étape et sur la suite du Tour de France parce qu'il n'est pas terminé le Tour. Encore 1 semaine avant l'arrivée à Nice. Toute l'équipe de l'After est regroupée à mes côtés. Cyril Guimard, il a fait une belle petite sieste là, il est bien requinqué, il a réfléchi à tout ce qui va pouvoir se passer dans cette dernière semaine. Salut Cyril.
Salut, alors j'ai fait une petite sieste, c'est normal, je ne faisais de mal à personne.
Ah non.
Et je me faisais du bien à moi-même. Voilà, et puis ensuite, ayant récupéré un petit peu, j'ai essayé d'imaginer ce qu'allait être cette dernière semaine.
Tu nous livreras le fruit de ta réflexion tout à l'heure.
Une partie.
Bah dis donc, j'espère que le reste de l'émission va être plus intéressant.
Ouais.
Que ces analyses.
Voilà, dès que j'essaye de dire des choses sensées.
C'était manifestement orageux puisque la sieste était accompagnée de ronflements.
Oui, donc, alors
je ne sais pas quel cataclysme va arriver sur le tour.
Pour une raison très simple, c'est que j'étais allongé sur le dos.
Oui,
ah,
c'est vrai.
C'est pour ça.
Avec le ventre à l'air.
Magnifique, vous imaginez le spectacle. Jérôme Coppel n'a pas fait la sieste.
Il a pas besoin. Il dort rebondir derrière.
Il dort 2 heures par nuit.
Est-ce que je peux révéler un secret parce que Jérôme Coppel fait des misères au druide pendant que le druide dort?
Il fait des photos.
Tu peux.
Il lui cache ses Birkenstock.
Oh non.
Ouais.
Moi
c'est pas mangeable. Il m'a caché mes chaussures, mes pilules, tout.
Tout va mal. Ça va, Jérôme?
Ça va très bien, messieurs. Excellent.
Tu t'es ennuyé pour avoir le temps de faire des petites blagues à toute l'équipe?
Non, mais je travaille très très vite, moi. Oui, à la différence de vous. Donc j'ai le temps de faire plein de choses en une heure.
Préparer l'étape de demain.
Tu sais, faut regarder si les voitures auront vent dans le dos pour aller à la plage depuis l'hôtel. C'est important de savoir combien de temps on va mettre.
Mais je l'ai retrouvé, ma chaussure, parce que Léna, qui m'aime bien, m'a dit c'est Jérôme, okay. Regarde où il l'a mis.
Ok, on a compris. Arnaud Souk était sur la moto aujourd'hui, il s'en est mis plein les yeux dans cette montée
c'était
du plateau de Bayeux, c'était pas mal.
J'ai pas vu longtemps le maillot jaune, mais je l'ai vu et c'était plutôt sympa.
Il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Hein,
il était encore derrière
dans le peloton.
Il était encore dans la route Vingegaard à ce moment-là. Il n'avait pas encore placé son
maillot. Il n'est pas resté longtemps dans la route Vingegaard, histoire de s'asperger un peu, puis il a décidé d'envoyer du bois, et puis Pierre-Yves Leroux. Ouais. Il dort pas beaucoup lui non plus.
Ah non, il n'y a pas que Cyril Guimard qui est sur le dos aujourd'hui. Il y a aussi Jonas Vingegaard qui est en difficulté sur cette magnifique étape qui nous emmenait au plateau de Bayeux.
Et pour se remettre les idées en place, on va réécouter les moments importants de ce direct que vous avez vécu cet après-midi dans l'Intégral Tour. Cette 15e étape donc où Tadej Pogacar a une nouvelle fois frappé du poing sur la table du Tour de France.
Tadej Pogacar ne s'est quasiment jamais retourné pour savoir si Vingegaard était capable de revenir.
Non, je ne te respecte pas.
Jonas Vingegaard aura été courageux aujourd'hui, mais il n'est plus le plus fort. Il ne va très certainement pas gagner un 3e Tour de France.
C'est le final de cette étape et que Pogacar va s'imposer dans maintenant 150 mètres. Pierre-Yves, ouais. La victoire du maillot jaune.
Exactement. L'exploit encore une fois de Tadej Pogacar qui a été emmené par son poisson pilote aujourd'hui. Jonas Vingegaard qui a tenté quelque chose mais qui n'a pas réussi. Tadej Pogacar qui s'impose pour la 2e journée de suite et qui vient assommer le Tour, qui va mettre 1 minute d'avance à Jonas Vingegaard qui lui va prendre de l'avance sur la 3e place. Le classement est quasiment fait. Jonas Vingegaard dans le dernier kilomètre. Tadej Pogacar qui s'impose aujourd'hui au plateau de Bayeux.
C'est juste, c'est les émotions en fait.
Voilà, cette 15e étape du Tour de France remportée donc par Tadej Pogacar. On s'est régalé. Enfin, est-ce qu'on s'est régalé aujourd'hui? Parce que tout semblait cousu de fil blanc, non?
Oui.
C'est pas un peu votre avis?
C'est un peu notre avis. Après, on a quand même cru à une échappée. Alors, on a vite vu que Visma avait d'autres ambitions, mais finalement, l'échappée s'est pas laissé faire. On a cru que peut-être ça allait pouvoir le faire. Et puis, Vingegaard a essayé. On ne sait jamais. Est-ce que Pogacar peut avoir une journée sans? En tout cas, c'était pas aujourd'hui. Ouais. Après, dans ce qu'on avait imaginé, c'était ça. Vingegaard allait rouler pour essayer d'éliminer Evenepoel et éventuellement éventuellement Poggi par la même occasion. Ça n'a pas été le cas. Et si Poggi était bien, il allait contrer Vingegaard. Oui, c'était sans grande surprise. Après, les écarts, peut-être un peu plus.
Cyril, tu as été surpris. Alors, c'est vrai qu'on a vu rouler la formation de Vingegaard, la Visma Lisebike, pendant la quasi-totalité de l'étape. On se disait peut-être que Vingegaard en a dans les jambes. Il en avait, mais il en avait moins que l'autre, forcément.
Oui.
Et il le sentait qu'il en avait moins que Pogacar, qui a semblé d'une sérénité totale tout au long de l'étape. C'est vrai qu'après l'étape du Lioran, il était peut-être un peu inquiet, mais hier, il a retrouvé toute sa sérénité. Il était tranquille comme Baptiste.
Oui, et Pierre-Yves l'a rappelé de tout de suite, il ne se retournait pas aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'hier, lorsqu'il est parti, pendant un certain temps, il a observé le plus souvent possible Vingegaard. Aujourd'hui, quand il est parti, il n'y avait pas de surprise. Et Vingegaard savait que de toute façon, il allait se faire enrhumer. Ce qui nous a un petit peu surpris, et peut-être ce qui fait qu'on a peut-être le sentiment qu'on aurait aimé voir autre chose, c'est qu'il y a cet échappé qui part au départ, avec Godu dans un premier temps, mais c'est le deuxième contre qui va partir, où on avait deux Français, entre autres Lenny Martinez, et on s'est mis à rêver que cet échappé s'en aille. Mais Vingegaard avait décidé une autre stratégie aujourd'hui. Il a fait rouler toute la journée son équipe. Alors, la question que l'on se posait, et Jérôme l'a posée très clairement, est-ce qu'il court maintenant contre Pogacar, ou est-ce que son seul problème, c'est de mettre hors jeu pour la deuxième place Evenepoel? Et je crois qu'à l'arrivée, on a la réponse.
On l'écoutera tout à l'heure, Jonas Vingegaard, qui s'est montré plutôt satisfait de sa performance aujourd'hui.
C'est comme, vrai hier.
Comme hier. Comme hier. Je ne sais pas si c'est de la langue de bois, s'il le pense vraiment.
Un petit peu quand même.
Peut-être un peu quand même. Tadej Pogacar, donc, qui est vraiment cette année, on le retrouve comme à ses débuts dans le Tour de France, lorsqu'il avait remporté son premier tour en déposant Roglic dans le chrono de la planche des Belles Filles, puis sa deuxième victoire l'année d'après.
Je dirais surtout sur le deuxième tour.
Ouais. Parce que le premier, il avait décroché le maillot jaune la veille de l'arrivée.
Oui, c'est ça, il apparaît un peu, personne ne pense qu'il est capable de gagner le tour, ouais. Donc on le surveille un petit peu moins. Sur le deuxième, on voit qu'il est tranquille, voilà, il est totalement à sa main, et ça y ressemble beaucoup à ce deuxième Tour de France. Et aussi, moi je commence à trouver que ça ressemble un peu au Giro quand même, hein, parce que l'opposition, elle commence à être loin.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une domination outrancière comme il l'avait fait sur le Giro ?
Alors que le plateau
n'est pas le même.
Ouais,
hein.
Autant que le Giro, je n'irai pas jusque-là, mais ça commence à y ressembler. Il reste quand même une semaine de course, ça pourrait ressembler
et à des étapes très difficiles.
Et des étapes très difficiles, c'est vrai. Et je me suis posé la même question. Alors l'adversité est beaucoup plus haute sur le papier, mais finalement Pogacar est encore au-dessus de la mêlée. Ok, Vingegaard n'est pas au niveau qu'il devrait avoir. On n'a pas les deux au top niveau. Enfin, on a Pogacar au top niveau, mais on n'a pas Vingegaard au top de son niveau. Voilà, mais c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que le Giro allait le fatiguer, allait poser des problèmes pour gagner le Tour de France ? Apparemment pas, puisqu'il le domine encore, encore de la même manière que lors de sa deuxième victoire sur le Tour.
Au sort de la 15e étape sur le Giro, il avait 6 minutes 41 d'avance sur Geraint Thomas. Bon là, il a quand même beaucoup moins sur Jonas Vingegaard, et c'est un adversaire encore de notre calibre. J'attendais moi de voir personnellement les Pyrénées pour donner voilà, des états de forme des uns et des autres. Je pense que Pogacar a pris une très sérieuse option sur le tour. Après 3 minutes, voilà, il reste encore quand même quelques étapes de montagne et on ne sait pas ce qui peut se passer. Pogacar a quand même eu quelque chose, il y a quand même quelque chose de commun à tous ces tours, c'est qu'il a quasiment systématiquement toujours connu une défaillance d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc est-ce que ça peut encore pas. Est-ce que c'est un peu
possible
que ça arrive ?
Pas dans le Giro, moi, de.
Pas dans le Giro,
peut-être qu'il en a vu, mais ça ne s'est pas vu.
Ou ça ne s'est pas vu. Mais en tout cas, dans tous les tours, ou quasiment tous les tours, il y a eu un moment où il a perdu du temps.
Mais tous.
Oui, ça s'explique, parce que la première année, la tactique de la Visma l'a peut-être fait dérailler et l'a détraqué psychologiquement. Et la deuxième année, il y avait ce manque de préparation dû à sa blessure, et puis le coup au moral subi après le chrono. Là, pour l'instant, il y a eu cette petite hésitation, effectivement, après le Lioran, mais oui, tout se passe
comme sur un tableau
noir, quand même. Hein,
enfin, le Lioran, c'est quand même une défaillance.
Ouais, c'est peut-être là.
Parce que si on prend toutes les autres étapes, si on prend les deux étapes des Pyrénées, la sanction était claire, c'est 1 minute par jour.
Le Galibier, c'était un peu moins, mais bon.
Un peu moins, mais la course n'était pas la même, le parcours n'était
pas le même.
C'était
pas une arrivée au sommet, mais il a attaqué tard dans le Galibier.
Si on prend les 4 dernières étapes de montagne, ça peut faire 4 minutes.
Voilà. Et le chrono ?
le chrono, bon, ça après, peut faire 5.
Voilà, et donc, on se rapproche des 10
minutes. Des 5 et 3, 8.
Oui, ce qui serait assez incroyable.
On va écouter tout de suite Tadej Pogacar, grand sourire évidemment, sitôt la ligne d'arrivée franchie. On est loin du masque qu'il avait au soir du Dieu Lurant, c'était mercredi dernier. Le sentiment du devoir accompli, il est le patron du Tour de France et il nous raconte son étape, on l'écoute.
Je n'aurais jamais imaginé ce genre de résultat après le début de la deuxième semaine, donc je suis super content de ma forme. Aujourd'hui il faisait super chaud et c'était vraiment une journée difficile. D'habitude j'ai toujours du mal avec la chaleur et aujourd'hui l'équipe a fait un super travail pour me rafraîchir. C'était une journée incroyable. Maintenant ça semble vraiment bien, je disais cela quand j'avais déjà 1 minute 14, maintenant c'est vraiment vraiment bon avec une avance confortable et nous devons juste rester concentrés les 6 derniers jours, gardons cette mentalité comme nous l'avons toujours eu pour bien conclure la semaine prochaine.
Voilà, il parle de conclusion la semaine prochaine, effectivement. Voilà, on est déjà dans la conclusion du tour pour Poggi. Il n'a plus qu'à mettre la balle au fond, là. Il est devant la ligne, paf, plus qu'à pousser le pied. Hein.
Oui, c'est un pénalty sans gardien.
Sans gardien.
et après, on en revient encore au débat qu'on avait ces derniers jours. C'est est-ce qu'il doit maintenant être attentiste et ne pas écraser vraiment le tour, comme tu le disais, prendre une minute à chaque étape de montagne, ou bien connaissant son état d'esprit, de faire le show, de faire le spectacle, de vouloir être devant, d'être un cannibale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, eh bien, est-ce qu'il va continuer à mettre une patte d'ours, puisqu'on est ici en Ariège sur ses opposants.
Il a toujours eu un appétit insatiable, hein, ce garçon-là.
Oui, mais c'est bien d'avoir de l'appétit. Regarde, toi, tu as beaucoup d'appétit aussi. Oh, hein.
Ouais. On n'est même plus dans l'appétit.
Non, enfin, aujourd'hui, il a pris...
J'en peux plus de vous. Je n'en peux plus de vous.
Aujourd'hui, si vous regardez bien... D'ailleurs, il remercie pas son équipe pour le travail qu'elle a fait dans le contrôle de la course, dans la direction de course, dans le fait d'avoir fait des tempos. Il remercie son équipe parce que son équipe lui a permis de se rafraîchir, de se ravitailler. C'est-à-dire qu'on est, il est même plus dans la course. Ils ont été super sympas.
Il y a une bonne ambiance.
Ils m'ont amené les petits fours, la petite bière bien fraîche. Voilà, mais c'était formidable. Mais c'est vrai que Vingegaard n'était plus dans la course du maillot jaune. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur ces 4 derniers jours de montagne? C'est ça qu'il faut plus essayer d'imaginer. Pour que nous, on reste concentrés.
Oui, mais aujourd'hui, excuse-moi Christophe, mais à la différence des autres étapes, ils ont été plutôt défensifs, UAE. Alors, ils n'ont pas eu besoin de partir à l'offensive.
Ils n'ont plus besoin
c'est Visma qui a fait le boulot, après c'est Vingegaard qui a travaillé, et là, il a vu qu'il était au-dessus de Vingegaard, il y a été, parce que ses jambes répondaient bien, parce qu'il y avait l'opportunité, et il a pris une minute. À mon avis, c'est un peu la stratégie qu'ils vont utiliser jusqu'à Nice, maintenant.
Logiquement.
Tu as 3 minutes d'avance, si Visma recourt comme ça, il reprend 30 secondes, 45 secondes par-ci, par-là, puis il sera vite à 4 minutes.
Très bien, on va s'intéresser à la suite de ce Tour de France dans un instant, mais on va accueillir tout de suite Nicolas Pelletier parce qu'il a des informations concernant les droits de la Ligue 1. Cette fois-ci, oui, la fumée blanche est sortie de la Ligue, Nicolas. Salut, Nico.
Salut à tous. Oui, la fumée blanche est sortie. On sait qui seront les deux diffuseurs de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Ça sera DAZN, le média anglais qui vient d'acquérir 8 des 9 rencontres de Ligue 1. Et Bein Sport diffusera un match par saison. On le dit, il tourne autour de 500 millions d'euros pour les clubs de Ligue 1, très loin des 900 millions d'euros espérés. Et ce qui intéresse le plus le consommateur, c'est le prix de l'abonnement. On parle d'un abonnement pour DAZN, 8 des 9 matchs, de 30 à 40 euros l'abonnement par mois. Il faudra ajouter à cela 15 euros d'abonnement pour Bein Sport pour suivre la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Donc voilà, on connaît maintenant les deux diffuseurs de la Ligue 1 pour la saison prochaine et les clubs sont un peu plus sereins pour préparer le mercato.
Ils sont sereins, mais...
Avec moins d'argent, 40 euros.
Nico se trompe, c'est par an.
Non, c'est bien par mois, messieurs.
C'est par saison. C'est bien par mois. 30 à 40 euros plus 15 euros, mais c'est complètement un jour. Enfin, on verra
bien. J'écouterai RMC.
De toute façon, il faut écouter RMC. Bien sûr,
évidemment. Très bien. Donc pas de chaîne, puisqu'on ça a été longtemps sur le devant de la scène, cette chaîne qui aurait été créée par la Ligue où auraient été diffusés tous les matchs. Finalement, ils ont renoncé du fiasco là aussi.
Exactement.
Peut-être,
hein. Il n'y avait pas assez de garanties financières, notamment pour la première saison. Nasser Al Khelaifi, le patron du PSG et de Bein Sport, n'en voulait pas. Et donc, ça sera DAZN et Bein à partir du mois d'août pour la reprise de la Ligue 1.
Très bien. Et merci beaucoup, Nico. J'imagine
bonne
qu'on
soirée,
développera
messieurs.
Tout ça un peu plus tard sur l'antenne d'RMC. Donc, DAZN et beIN qui vont récupérer les droits de la Ligue 1. Et le téléspectateur, bah, lui, va devoir sortir son porte-monnaie. On revient sur le Tour de France, le seul spectacle gratuit, hein, gratuit à la fois sur les routes, puisque vous pouvez venir au bord de la route admirer les coureurs, et également à la télé, puisqu'il ne faut pas payer pour voir le Tour, et non plus pas payer pour l'écouter sur RMC.
Ouais. Voilà, et une ambiance incroyable, c'est vrai que c'est la fête, quoi.
Alors, c'est la fête, mais est-ce que ça va être la fête encore pendant une semaine? Est-ce que ça va vraiment être la fête? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on s'ennuie ferme durant cette dernière semaine? On a pas été habitué ces dernières années à ce genre de choses, puisqu'on rappelle l'année dernière, le Tour s'est joué en dernière semaine, jusqu'au matin du chrono, il n'y avait que très peu d'écart entre les deux cadors. Là, on est à 3 minutes. Je veux dire, a priori, le suspense, à moins, je le sais, d'une catastrophe, d'une météorite qui tombe sur le Tour de France, d'un Covid généralisé ou d'un pangolin nouveau qui viendrait, polluer le Tour de France.
Ou des ours qui nous attaquent.
Ah ouais. Mais bon, on va vite redescendre des Pyrénées quand même. Oui, donc là, qu'ils se dépêchent, les ours.
Là, tu parles pour le classement général.
Oui, pour le classement
après,
général.
Des victoires d'étape. On devra avoir un peu de bataille.
Oui, mais on le sait bien, c'est vrai que... Jérôme. L'intérêt principal du Tour, c'est de savoir qui va l'emporter.
Oui, mais
et c'est bien que. Quand on a vu le tracé du Tour, quand on a vu ce tracé avec ce contre-la-montre lors de la dernière journée, on rêvait d'une bagarre à quelques secondes près. Bon, alors c'était peut-être un rêve impossible. Mais voilà, le rêve s'est envolé aujourd'hui. A priori.
Bien sûr, bah oui, là le rêve s'est envolé. Je pense que pour le podium, c'est compliqué. Mais bon, des fois, tu regardes un film, tu as compris la fin, mais tu vas quand même au bout du film. Bah voilà, là, le truc principal, c'est mort, mais il y a quand même des étapes à aller chercher, puis des belles étapes. Il reste quand même une belle semaine.
Mais c'est vrai que les classements des maillots distinctifs,
tout est joué là.
C'est quasiment
tout est joué
partout. Oui, bah c'est même joué partout, effectivement. Hein. On peut aller chercher le super combatif, peut-être. Ouais. En revanche, pour les
c'est
victoires
d'étape. C'est peut-être joué aussi, d'ailleurs.
Oui, il reste du spectacle. Mais je crois qu'on l'a dit pendant le direct, ça s'est joué, en fait, début avril. Hein, avec ce tracé qui était magnifique. Mais à partir de cette chute autour du Pays Basque, eh bien, la donnée n'était plus la même.
Ah, jusqu'au 3 avril au soir, Vingegaard était le favori du Tour de France.
Ah bah oui, oui.
Surtout avec Pogacar qui enchaînait Giro et Tour.
Clairement.
Tout le monde pensait que Vingegaard, qui avait déjà mis deux baffes à Pogacar, allait lui en mettre une troisième. Évidemment, les choses ont changé.
Le vélo, c'est ça aussi.
Oui, c'est pas que le Tour de France, c'est la préparation.
C'est les courses avant. C'est, des fois, même sans chute, la préparation n'est pas bonne et on se plante. Il y a des chutes, il y a d'autres courses à faire avant. Et des fois, il y a des défaillances sur le Tour. Pogacar est au-dessus et c'est comme ça. Si vous voulez qu'on dise.
Mais moi, vraiment, j'aime le visage aujourd'hui de Vingegaard qui montre du courage. Franchement, on l'a vu.
Ah oui, non, mais
il n'a rien à perdre.
C'est un viking. Hein. Voilà. Il n'a pas une allure de viking, mais dans la tête, il est
quand
même.
Et donc, je pense qu'il va continuer quand même à essayer de se bagarrer parce qu'il se dit, bah, avec Remco, il faut encore essayer de creuser. Donc, on va avoir des attaques en tête de classement. Quoi.
Et puis, bon, Visma Liseberg ont une victoire d'étape. Ils vont peut-être vouloir aller en chercher une deuxième. Il y a encore des enjeux.
Et puis, les UAE vont vouloir peut-être offrir une victoire au lieutenant, à Damietz et à Almeida. Donc, il va se passer des choses encore.
Eh ben, on espère, parce qu'on est encore là pendant une semaine.
Je suis heureux de votre optimisme.
Oui, tu partages pas notre optimisme ?
Non, pas sur ce plan-là. Je vais même aller plus loin et me poser une question, parce qu'il paraît qu'il faut apporter quelque chose dans le débat.
avec
et si le Tour avait été mal construit avec ses quatre étapes pour terminer ?
On en parle dans un instant. C'est un bon débat que tu lances, Cyril. Il est 19h19, vous écoutez l'After Tour, on revient dans un instant, toujours en direct du plateau de Bay. Le manque de suspense finalement dans ce Tour de France,
il a lu ton conducteur, je crois.
Ah, il a lu mon conducteur. Non, il lit jamais mon conducteur. Il préfère rester vierge de toute influence. A tout de suite sur RMC, on revient dans un instant.
RMC jusqu'à 20h.
L'After Tour sur RMC. Pendant l'Euro de foot, il y a tous les matchs.
Et après les matchs, il y a l'After Foot.
Et après l'After Foot, il y a la Libre Antenne.
Une heure de foot totalement débridée avec Oussem, Nico, Thibaut, vous au 32-16 et Julien Cazard.
L'After Libre Antenne Intégral Euro. C'est tous les soirs de match, minuit 30, 1h30 sur RMC.
Ça, c'est le bruit d'un départ en vacances. Ça, c'est le bruit de quelqu'un qui vient de se faire flasher. Et ça, c'est le bruit de mes économies. Avec Coyote, je fais des économies et j'évite les amendes. En ce moment, téléchargez l'appli Coyote et bénéficiez de 7 jours d'essai gratuits. Coyote, faire la route ensemble. Service soumis à abonnement. Conditions sur moncoyote.com.
Heureusement que Fiat est là.
Bah comment ça?
Pour rendre la voiture électrique toujours accessible.
What?
D'abord, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et plus que jamais, Fiat défend le leasing pour tous. Fiat 500 électrique est désormais à partir de 69 euros par mois. C'est exceptionnel et seulement en juillet.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 4500 euros, bonus éco 4000 euros et remise éco Fiat 3000 euros déduits, c'est accord crédit par jusqu'au 31 juillet. Détails sur fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Tu préfères King chez Burger King? C'est un cadeau au choix pour les enfants ou les parents.
Ok, donc la dinette plutôt que le frigo. Oh bah merci Bastien, on va manger des plats en plastique.
Dommage que ce soit les enfants qui décident. Un jeu 100% gagnant de retour dans les menus enfants. Voir les dates, lots et modalités de participation sur tupréfèresking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King.
Cet été, avec le pass Ulysse, une offre exceptionnelle. Des minutes de plus de...
Les chipots, faut les percer ou pas?
Je sais jamais. On en perce une sur deux?
Banco.
Passez moins de temps au péage et plus de temps en vacances avec le pass Ulysse. 2 euros par mois et 0 euros quand vous ne l'utilisez pas.
Ulysse. Bip. Et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Peugeot.
Vous êtes au volant et vous croisez la nouvelle Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est maintenant disponible en version hybride, qu'en ville, elle roule jusqu'à 50% du temps en mode électrique et qu'elle est proposée à partir de 160 euros par mois. Là, elle devient irrésistible.
LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 5150 euros pour une 208 active hybride 109. Réservée aux particuliers jusqu'au 15 juillet si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Suivant état de charge de batterie, style de conduite. Pensez à covoiturer.
Ne ratez rien de l'Euro de foot sur RMC.
Ce soir à 21h, la finale, Espagne-Angleterre.
RMC, l'after tour.
Christophe Cessieux.
Et nous sommes en direct du plateau de Bayeux où les gros bus et les gros camions qui accompagnent le Tour de France sont en train de quitter la zone d'arrivée en direction du bas de la descente. Il va y avoir beaucoup
pour
de monde.
Pour notre plus grande joie.
Oui. Il va falloir être enquillé derrière eux. Par contre, les coureurs, hein, Arnaud, sont déjà partis depuis un moment.
Avec leur petit sifflet, ils sont redescendus. Voilà.
Ouais, direct, ils ont franchi la ligne.
Petit toilettage en haut, petit séchage, on remet une petite veste, on met un sifflet autour du cou avec le même tour de cou que nous, là, jeune, et on descend en sifflant pour éviter. Enfin, Jérôme connaît ça. Évidemment.
C'est un moment agréable, ça, Jérôme, de redescendre parmi la foule, là, comme ça, les gens qui t'encouragent encore dans le sens inverse.
Ouais, c'est agréable, mais c'est dangereux. C'est vraiment dangereux.
Ah, ça, c'est le sifflet de Cyril.
Troisième mi-temps pour Cyril, c'est parti, fin du match. C'est toujours un moment agréable. Il faut quand même faire attention parce que, suivant quand vous arrivez, il y a encore des coureurs qui montent, il y a les spectateurs qui ne pensent pas forcément qu'il y a des coureurs qui redescendent, donc ils sont au milieu de la route pour encourager ceux qui montent. Voilà, moi, à mon époque, il y avait pas de sifflet. Il y avait quand même eu quelques gamelles, des fois, en redescendant des cols comme ça. Mais c'est toujours un bon moment, quoi.
Ou Froome qui s'est fait bloquer par la police.
Ah ouais. Oui, par un gendarme. il a failli finir incroyable. Au poste.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le tour de cou jaune, pour que les policiers, notamment, puissent voir que ce sont des coureurs.
Et un brassard aussi.
Un brassard, exactement.
Très bien. Et ensuite,
tous capitaines.
Les bus les attendent au pied de la descente et les ramènent à l'hôtel. Il va falloir faire un petit bout de chemin quand même, parce que la journée de repos ne se passe pas au pied des Pyrénées. Hein.
Ah oui, bah oui, puisqu'on est à Gruissant à la journée de repos, donc il y a 2h30 de route, on va dire.
Ouais, alors
ces eaux-là, je sais pas si
ça perturbe un peu les habitudes des coureurs.
Ouais, hein. Alors une journée comme aujourd'hui, c'est, on va dire, un petit peu moins grave, parce que demain il y a la journée de repos, mais hier par exemple, l'équipe Intermarché Wanty a aussi été prise dans les bouchons en repartant de Saint-Lary-Soulan. Ils sont arrivés à 21h30 à l'hôtel, encore manger, faire les massages.
On peut pas faire les massages dans le bus, il y a pas de table de massage dans le bus.
C'est compliqué,
quand ça bouge un peu.
Si vous avez un chauffeur comme Pierre-Yves Leroux, en plus, vous risquez de chuter de la table. Quoi.
Par contre, si vous avez un masseur comme Cyril Guimard, c'est parfait.
Ouais, qui dort et qui ronfle à côté, vous allez avoir un bon massage.
Alors, revenons sur ce Tour de France. Cyril, tu nous as mis l'eau à la bouche il y a quelques instants en nous expliquant que le parcours, finalement, de ce Tour, avec toutes les difficultés, finalement, enfin, l'essentiel des difficultés rassemblées en fin de Tour, était peut-être une erreur des organisateurs. Pourquoi ? Explique-nous
alors,
ce que tu veux dire.
Alors, je ne dis pas que c'est une erreur. Il faut qu'on réfléchisse à ce genre de choses, puisque... alors quand on a eu que deux étapes de montagne et le Galibier, on arrive à des écarts plus importants que lorsqu'on a un tour, on va dire, classique, avec, dans un premier temps, soit le Massif central, soit les Pyrénées, soit les Alpes, mais c'est beaucoup plus... les étapes de montagne sont beaucoup plus dispatchées sur les trois semaines, alors que là...
Mais si ça avait été plus dispatché, il y aurait eu les écarts encore plus tôt, non, Cyril ?
Je ne sais pas, parce que...
Cyril, là, oui. J'ai un exemple à te donner, le Tour de France 2020. C'était quasiment la même configuration, avec 5 étapes de montagne et le chrono dans les 8 dernières étapes. Et au final, on a eu un rebondissement à la dernière étape, enfin à l'avant-dernière étape. Donc, c'est pas forcément le parcours qui est.
C'est les forces en présence qui
expliquent. C'est les forces en présence.
Ouais, non, mais je ne nie pas, mais c'est aussi on peut se poser la question.
Et c'est aussi peut-être la façon dont les coureurs ont fait la course, parce qu'on l'a dit et répété, quand même, les trois étapes soi-disant de transition qu'il y a eu, que ce soit dans le Massif central et ensuite les deux étapes vers les Pyrénées, ils se sont quand même beaucoup, beaucoup donnés. Ça explique aussi peut-être de la fatigue.
Enfin, bon, après, on se disait qu'en rentrant en France, en partant d'Italie, le tour serait peut-être plié. Il n'était pas à ce moment-là, parce que les deux premières étapes étaient ultra difficiles. On s'attendait à voir Pogacar attaquer. Le parcours, je ne sais pas, pour moi, il n'a pas d'influence là-dedans. Parce que si on avait eu Vingegaard au top de sa forme, bah peut-être que c'est justement ces 3-4 dernières étapes qui auraient fait la différence.
Oui.
Là, il y a aussi des circonstances.
Il a été conçu avec le postulat de départ que les deux hommes arrivent en même état de forme au départ.
Bien sûr. Et puis bon, voilà, Pogacar est au-dessus du lot, il tue le tour maintenant. Mais bon, les organisateurs, ils ne peuvent pas le savoir quand ils vont tracer le parcours. Ils essaient justement de faire une dernière semaine qui est hyper alléchante pour avoir de la course.
Mmh. Ce qui était intéressant, c'était les étapes en Italie qui ont permis d'avoir un spectacle absolument extraordinaire et qui a aussi permis aux échappés d'aller à l'arrivée et de permettre aux Français de se mettre en évidence. Pour nous, c'était absolument extraordinaire. Ensuite, on a eu une semaine avec les chemins blancs.
Ouais, je vois où tu veux en venir. Il faudrait presque organiser un tour avec des étapes de moyenne montagne, où il y a moins de différence finalement à l'arrivée. Et comme au Luron, par exemple, ou comme au Galibier, où il y a eu juste un col à passer et ensuite
mais souvent, ces étapes-là,
une dernière étape de montagne...
Je comprends pas.
Mais on ne te demande pas de comprendre.
Ça serait quand même intéressant que je puisse comprendre. On passe notre temps à dire c'est génial d'avoir de la lutte en haute montagne. Et là, pour le coup, on a quand même deux garçons qui nous se mettent des peignées depuis des années en haute montagne. Et c'est extraordinaire. Je veux dire, on ne va quand même pas se plaindre. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même le rêve de tout organisateur, je pense, d'une compétition, d'avoir le genre d'étape de montagne qu'on va avoir la veille de l'arrivée sur le Tour de France. D'habitude, c'est pas possible parce que le Tour arrive à Paris. Moi, je peux vous dire, par exemple, Christian Prudhomme, il est quand même... Alors, OK, il vend son produit, mais il est quand même parfaitement satisfait. Et je pense que nous aussi, on l'est dans l'absolu, d'avoir les deux étapes sprint en montagne qu'on va
avoir. Est-ce que tu penses que Christian est complètement satisfait ce soir ? Parce que ils ont un peu tué... Enfin, Bocchi a un peu tué le game.
Ouais, mais c'est ça, c'est Pogacar et son équipe qui ont tué la course.
Ouais, après, bien sûr, les organisateurs n'y peuvent rien.
Qu'est-ce que le parcours vient faire là-dedans ?
Moi, j'ai une autre proposition. Combien de fois, sur les 50 dernières années, la troisième semaine a été intéressante ? Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on doit être à 6, 7 fois sur 50, à peu près. Pas plus.
La troisième semaine ou vraiment les derniers jours du tour ?
Non, la troisième semaine. La plupart du temps, quand on arrive à la dernière journée de repos, c'est déjà quasiment joué. Voilà.
Ouais, donc peut-être. C'est l'exception.
Non, mais je
que le tour se joue dans les derniers jours.
Mais je sais bien que c'est du business. Mais pourquoi on n'aurait pas des courses de 15 jours où on aurait une intensité véritable ?
Ça ne changera rien.
Peut-être que si, il y aurait plus de fraîcheur.
Bah plutôt, les écarts se seraient faits plus tôt, parce que le parcours serait tracé différemment. Mais là, tu vas toucher à l'histoire du vélo, les grands tours.
Alors, on
ne
peut pas toucher à l'histoire du vélo.
Pourquoi pas un grand tour, c'est 3 semaines.
Mais pourquoi ?
Dans d'autres sports, on essaye d'amener des choses.
Mais oui, faut peut-être.
Le football, c'est toujours 90 minutes.
Oui, mais il y a plus d'équipes qu'avant.
Il y a la VAR maintenant.
Mais quoi ? Là, c'est internationalisé maintenant. Mais n'importe quoi.
Internationalisé, c'est pas internationalisé. Du tout, on te l'a prouvé.
Quand tu dis que si on le fait sur 15 jours, les coureurs sont plus frais, et tous les jours, on est en train de dire, les coureurs sont cramés. Alors, 15 jours ou 3 semaines, ça change quoi ?
Et après, on va dire, le mec a gagné le Tour de France, c'était un Tour de France au rabais, il faisait 15 jours, alors qu'à mon époque, ça faisait 3 semaines.
On ne compare pas avec l'avant-guerre, parce qu'il n'y avait pas de bitume.
Tu fais que comparer tout le temps, la preuve.
Il ne fallait pas bitumer les routes, alors. Soyons cohérents.
Ils n'ont pas bitumé les routes pour que le Tour de France passe, ils ont bitumé pour les voitures, pas pour le Tour de France.
Ils refont la route à chaque fois que le Tour de France, avec notre argent en plus.
Ce qu'ils devraient faire, moi j'ai une idée, c'est que le ASO ne devrait pas dévoiler le parcours du tour. Le soir, on devrait connaître l'étape pour le lendemain.
Ça serait pratique au niveau organisation. Surtout pour réserver les hôtels.
Le resto,
pour revenir à ce que
C'est Jérôme, il s'appelle.
Oui, enfin bon, parce que là, vous commencez à dire un peu...
parce qu'on ne peut pas toucher à l'histoire, ben oui.
Mais non, attends, c'est pas ça le problème, c'est que Prud'homme, enfin, on va dire le staff d'organisation du Tour de France, ils essayent de bâtir un tour pour qu'il y ait le plus de suspense jusqu'à l'arrivée.
Le plus longtemps possible.
C'est ça, leur objectif. Ouais. Essayer de mettre en place ou d'équilibrer les parcours.
Bah, ils se plantent à 80%.
Mais à 95%.
Qui se plante.
Ils se plantent. Regardez le Tour d'Italie l'an dernier. On a fait le giro le plus difficile, le plus grand tour, au niveau des difficultés. Les coureurs se sont adaptés aux difficultés et tout s'est joué le dernier jour dans un contre-la-montre. Bon, on a encore un contre-la-montre pour finir le tour. Ces quatre dernières étapes, et la question que je posais quand je remets en cause, j'ai dit, on peut se poser la question si Pogacar, il se met dans la tête, comme il l'a fait sur le Tour d'Italie où il se baladait. Là, il risque de se balader de la même façon parce que pour Vingegaard, il ne va pas remettre l'écran. Donc, il peut aller chercher les quatre victoires d'étape. C'est-à-dire qu'il demande à ses équipiers de rouler. Il n'y aura plus d'échappés qui iront au bout. Et en fait, nous serons les narrateurs d'un exploit inouï d'un coureur qui est peut-être... avec Merckx et deux ou trois autres, le plus grand champion de l'histoire, et il voudra marquer l'histoire et aller chercher les quatre dernières épreuves, puis il fera cadeau à Evenepoel du contre-la-montre, ce qui n'est même pas encore tout à fait sûr. On peut avoir ce genre de choses, mais ça se deviendrait intéressant dans la façon dont on peut, nous, le ressentir, et les spectateurs, le ressentir. T'as dit cannibale, oui, non, là, on n'est plus dans un phénomène de cannibale. Écoute, tu prends les plus grands joueurs, par exemple, de tennis, ils gagnaient tous les grands chelems. Aujourd'hui, Wimbledon a été gagné par un jeune, il voudra peut-être faire plus que presque tous ceux qui l'ont précédé. Mais... Pogacar, rappelez-vous, on a toujours dit, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire. Donc s'il veut faire ça, désolé pour les équipes françaises, on ne va pas les chercher de gagne. Hein.
Et puis surtout, quand tu es coureur, comme Pogacar, tu veux gagner le tour, lui, il s'en fout du suspense, au contraire. Plus vite il peut le tuer, plus vite il se met à l'abri d'une victoire d'étape. Il en a rien à foutre que nous, on se fasse chier devant la télé. Hein. Lui, il veut prendre ses 3-4 minutes, avoir son matelas et être sûr de gagner le tour.
Sauf que quand tu arrives dans une finale de Grand Chelem, il reste toujours un peu de suspense.
Ouais, on l'a vu aujourd'hui.
Là,
désolé, mais Djokovic,
Roland Garros, est-ce qu'il y avait du suspense avec Nadal?
Mais dans une finale, on le dit, sur un match, tout peut se passer.
Oui, mais pas pour Nadal.
Alors que là,
et pour Pogacar, non plus.
Quand on arrive à la dernière journée de repos, très souvent, on se dit, en fait, c'est plié. Est-ce que le tour est joué? C'est toujours la même question. Ça fait 17 ans que Christophe Cessieux me pose la même question.
Bon, l'année prochaine, on revient que les 15 premiers jours.
Voilà, exactement.
Et on s'en va au bout de 15 jours. Alors, Poggi en est donc déjà à 3 victoires. Il a égalé son record. Il a déjà fini 3 Tours de France avec 3 victoires, un autre avec 2 victoires. Il pourrait donc, si on en croit Cyril, vouloir exploser les records avec 4 étapes donc, qui vont s'achever en altitude, plus le dernier contre la montre. Mais là, peut-être que Remco le privera d'une victoire. Quels sont les plus grands records, justement, sur un Tour de France pour les grands champions? Je ne parle pas des sprinteurs, mais les Merckx, les Hinault et autres copies.
Alors, la difficulté dans ce type de comparaison... non, on ne le met pas.
On le met pas, lui.
Non, la difficulté dans ce type de comparaison, c'est évidemment qu'on pose un regard sur des périodes différentes. Comparer les années Pogacar avec celles de Merckx, par exemple, c'est oublier qu'à l'époque du cannibale, c'était un peu plus facile de gagner une course. J'attends de voir la réaction de Cyril. Mais quand le Belge remporte 8 étapes en 70 étapes. Ou 74 sur le Tour de France, il y a des contre-la-montre individuels et par équipe, il y a des demi-étapes, il y a une opposition qui est un petit peu plus faible. Mais avec 3 victoires.
Il y a un jour, il a gagné avec 8 minutes d'avance. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. C'était un grand champion, oui, évidemment.
Mais les écarts étaient plus grands à l'époque de Merckx.
Oui, bien sûr, mais l'opposition était peut-être un peu plus faible, même sûrement. Avec 3 victoires depuis le début de ce tour, Pogacar est encore loin de Merckx, Martens et Pellissier, je vous le rappelle, qui sont vainqueurs donc de 8 étapes. Ils sont tous les 3 sur un même tour. Et il est encore loin de Hinault, qui est à 7, et Ocaña avec 5. Mais là, ce chiffre semble pourquoi pas, accessible. Hein. Cette année, 5, c'est possible. Aujourd'hui, Tadej Pogacar, en revanche, est entré dans l'histoire, messieurs, car au plateau de Bay, le Slovène est devenu le recordman des vainqueurs sur les étapes de montagne dans le Tour de France. 11 victoires, c'est une de plus qu'Eddy Merckx. C'est assez, vraiment une marque de passage importante à seulement 25 ans. Et s'il s'impose dans une semaine, il sera aussi le plus jeune vainqueur de 3 Tours de France. À 25 ans, Miguel Indurain n'avait toujours pas remporté la grande boucle.
Ouais. Louison Bobet non plus.
Oui, là on est Indurain qui en a
gagné 5. Sur les quintuples, ouais.
Ok, il va battre, il va égaler le record de Cagna, peut-être aller plus haut, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que son appétit va continuer voilà, à marquer le Tour de France dans les jours qui viennent?
Je ne pense pas qu'il manque d'appétit, bien au contraire. Et puis les succès, ça emmène, hein, ça dynamise.
Alors pour les sprinteurs, c'est le cas, mais c'est la même chose pour les vainqueurs du classement général. C'est le même état d'esprit.
Vous savez, tous les grands vainqueurs de Tour de France qui arrivent à 5 victoires, souvent quand ils arrivent à 5 victoires, ils ont déjà atteint un certain âge. Et c'est la démotivation qui commence à se produire, la fatigue, le pouvoir, comme on dit souvent, le pouvoir use. Et à un moment, c'est... remettre la pression pour un tour supplémentaire. Et c'est ce qui fait qu'Indurain, alors qu'il pouvait gagner un sixième tour, a littéralement explosé. Mais on le savait déjà avant le départ, puisqu'il est arrivé, il n'était pas prêt. Et ça se voyait rien qu'à son mollet. On s'est dit, il a décroché. Bernard Hinault aurait pu en faire plus, mais il a eu quelques blessures qui l'ont arrêté. Et après avoir gagné son cinquième tour, la tête a débranché. Vous savez, c'est dur de rester le maître d'un peloton pendant tous les jours d'un Tour de France et pendant 5, 6 ou 7 Tours de France. C'est extrêmement usant.
Ouais, mais Pogacar, il a quelque chose que n'avait pas, je pense, Indurain. Il a Vingegaard. Moi, je reviens encore sur le fait que ces deux-là se livrent une bataille absolument extraordinaire et que je ne suis pas convaincu qu'on n'ait pas encore une bataille de fou l'an prochain. C'est peut-être ça qui va le motiver finalement.
Non, mais
Pogacar,
le duel magnifique, incroyable.
Ils se tirent tous les deux vers le haut.
Et l'an prochain, je pense que Vingegaard, si tout va bien pour lui, il va avoir envie de...
Pour revenir à ta question...
Je pense que l'usure, tu vois, est moins importante.
Pour l'année prochaine, on sera qu'au quatrième tour possible. Oui. On ne sera pas arrivé au cinquième.
Pour revenir à ta question, bien sûr, moi je pense qu'il veut aller chercher une quatrième victoire et pourquoi pas une cinquième. Tu dis les sprinteurs, quand ils gagnent, ils ont encore plus d'appétit, mais c'est pareil pour quelqu'un qui joue le classement général. Et c'est peut-être encore plus grisant. Imaginez, lui, il a 5 km où il est avec son maillot jaune, il profite de la foule. Les sprinteurs, ils ont 100 mètres et ils lèvent les bras après la ligne. Lui, je n'ose pas imaginer la sensation qu'il a quand à une minute d'avance, à 3 km de l'arrivée, tu prends tous les encouragements de la foule et vous êtes dans un cadre majestueux comme ici au plateau de Baye, bien sûr qu'il veut remettre le couvert Pogacar.
Eh bien, nous verrons cela. Ce ne sera pas pour mardi, mais peut-être à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et pas dimanche contre la montre. Mais peut-être, pourquoi pas, vouloir battre Remco sur son terrain. Hein, on ne sait jamais avec Poggi.
Oui, et puis dans ses records, il pourrait quand même arriver à un chiffre important, c'est réussir à égaler Jacques Anquetil à 16, donc 2 de plus seulement. Et pour les Français, ça serait quand même...
Pour moi, c'est facile, ça.
Dès cette année,
il compte.
2 victoires.
parce qu'Anquetil ne se battait jamais pour gagner des étapes. Mm-hmm. Il avait ses contre-la-montre et quelques étapes de montagne, mais lui, c'était le métronome défensif, et quand il pouvait prendre ses adversaires, il les prenait. Mais il ne se battait pas pour aller chercher les gagnes, et puis il avait André Darrigade pour ça.
19h39 sur RMC, l'After Tour revient dans un instant, toujours en direct du plateau de Bay. On va s'intéresser aux battus, aux deux grands battus du jour, même s'ils terminent deuxième et troisième de l'étape. C'est donc Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Que peuvent-ils espérer dans ce Tour de France? Parce que là aussi, le podium semble jouer. Et puis on va aussi revenir sur ces échappées avec des très bons grimpeurs aujourd'hui encore, avec les Hindley, Johannessen et compagnie qui étaient là, mais qui n'ont pas pu aller jouer la gagne à l'arrivée de cette étape. Comment l'expliquer? Et puis on terminera avec les Français. Nouvelle fois décevant dans une étape de haute montagne. À tout de suite.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
La 15e édition des trophées PME RMC.
Bonjour, c'est Kevin Salah sur RMC. Je suis le cofondateur de Revolt. Aujourd'hui, vous payez l'électricité que vous consommez. Revolt vous permet d'être payé pour celle que vous ne consommez pas. En 2023, Revolt a remporté le prix de la PME Jeune Pousse et une campagne publicitaire de 100 000 euros sur RMC. Gagner ce prix va permettre de faire accroître la visibilité de l'application, notamment auprès du public B2B.
Inscrivez votre PME sur trophée-pme-rmc.com. RMC au 3216, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 73216,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
En quête du job idéal ou du collaborateur parfait ? Chez Temporis, pionnier des agences d'emploi en franchise, on joue collectif. Nos agences allient la réactivité d'un sprinter à la technique d'un expert. Avec la force d'un grand groupe et l'humain au cœur de notre jeu, Temporis, c'est l'esprit sportif appliqué au recrutement. Que vous soyez chef d'entreprise, DRH ou candidat, vous êtes notre meilleur joueur. Alors, prêt à jouer avec notre équipe ? Retrouvez votre agence Temporis près de chez vous sur temporis.fr.
Cet été, si vous avez besoin d'un médecin, suivez le bon chemin. Appelez votre médecin traitant en priorité. S'il n'est pas disponible, consultez la carte des lieux de soins proches de vous sur santé.fr. En dernier recours, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. Ceci est un message du gouvernement.
Heureusement que Fiat est là.
Bah comment ça ?
Pour rendre la voiture électrique toujours accessible.
What ?
D'abord, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus ?
Et plus que jamais, Fiat défend le leasing pour tous. Fiat 500 électrique est désormais à partir de 69 euros par mois. C'est exceptionnel et seulement en juillet.
Plus de prise de tête, on file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 4500 euros, bonus éco 4000 euros et remise éco Fiat 3000 euros déduit, c'est accord crédit par jusqu'au 31 juillet. Détails sur fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Fiat.
Tu m'as libéré de ma lampe. Je t'accorde 3 vœux.
Génie, je voudrais être hyper réactif face aux cambrioleurs, aux incendies et aux accidents domestiques.
Il te faut Secteur Alarme.
Secteur Alarme, agis aussitôt, en moins de 20 secondes chrono.
Notre réactivité, c'est votre sécurité.
Frais d'installation offerts. Voir conditions sur secteuralarme.fr. Société agréée par le CNAPS, mention sur secteuralarme.fr.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 septembre. Si Accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
La meilleure adresse pour suivre la compète en direct et sur écran géant.
Les brasseries au bureau, bien sûr. Burgers, planches à partager, ambiance de folie. Au bureau, vivez tout le sport en mieux.
Infos et réservations sur aubureau.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Tout savoir sur le Volvo EX30. Thomas, spécialiste de l'écomobilité chez Volvo, alors parlez-nous de cette nouvelle citadine 100% électrique.
Eh bien, le Volvo EX30 se distingue par sa petite taille et ses grandes ambitions. Il a l'empreinte carbone la plus faible de toutes les Volvo jamais produites. Le EX30 affiche également jusqu'à 476 km d'autonomie.
Très bien.
Et des équipements de sécurité très avancés.
Parfait. Et pour plus d'infos ?
On vous explique tout sur volvocars.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Amazon Prime Day, c'est les 16 et 17 juillet. En profitant de 2 jours de vente flash exceptionnelles sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression que c'est votre fête. Julie s'est acheté une tondeuse électrique. Elle est membre Prime, c'est fantastique. 2 jours de vente flash à ne pas manquer. Pour vous, c'est bientôt Prime Day. Et maintenant, elle est devenue une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 16 et 17 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant.
Salut les amis, c'est Eric Dimeco. Sur les routes, comme sur le terrain, chaque détail compte. En 2022, pas moins de 14 millions de flashs ont été enregistrés. Une stat qui donne le vertige. Et derrière chaque flash, une amende jusqu'à 135 euros. Mais grâce à Coyote, je reste attentif. L'appli Coyote m'aide à éviter les dangers de la route et les amendes. Alors pensez à votre sécurité et votre porte-monnaie. Je préfère m'offrir un bon resto que payer une amende. Optez pour Coyote et roulez l'esprit tranquille. Allez, bonne route.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct du plateau de Bèye, au terme de la 15e étape du Tour de France, remportée donc demain de maître par Tadej Pogacar, troisième succès sur les routes de ce Tour 2024 pour le maillot jaune qui va donc conforter son maillot. On va tout de suite se remettre en mémoire les classements, les écarts justement. Avec
oui, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils reviennent de la plage, pourquoi pas. Eh bien, Tadej Pogacar a gagné cette étape aujourd'hui au plateau de Bèye avec 1 minute 08 d'avance sur Jonas Vingegaard, 10 secondes de Bonif aussi en passant la ligne en premier. Remco Evenepoel a bien terminé troisième, mais à 2 minutes 51 de Tadej Pogacar. Et puis derrière, on a retrouvé Mikel Landa, Almeida, Adam Yates, Buitrago, Rodriguez, Carapaz et Félix Gall. Nos Français sont beaucoup plus loin. C'est Guillaume Martin qui est le premier, mais à la 20e place. Tadej Pogacar au classement général est premier. 3 minutes 09 derrière, on retrouve Jonas Vingegaard, donc un écart qui a encore grandi. Et Remco Evenepoel est troisième à 5 minutes 19. Le quatrième est à près de 11 minutes. C'est João Almeida.
Et on va écouter maintenant justement les grands battus du jour. Le premier d'entre eux, alors c'est lequel pour vous le premier battu du jour? C'est Vingegaard ou c'est Evenepoel?
Aujourd'hui?
Ouais.
Vingegaard. Aucun des deux.
Ah bon?
Aucun des deux. Vingegaard avait le tour perdu.
C'est Rodriguez.
Ouais, voilà, c'est derrière
Carlos
les
Rodriguez battus. Qui a abandonné toute possibilité de venir sur le podium.
Bah ouais, Vingegaard, le tour était perdu, il a augmenté son avance sur Remco Evenepoel.
Le tour était perdu, il avait peut-être quand même le secret espoir de renverser la table, non, Jérôme?
Deux minutes, non. Je pense qu'il n'avait plus trop d'espoir du tout, à mon avis. D'ailleurs, s'il avait de l'espoir, il n'aurait pas roulé comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il a roulé comme ça avec son équipe pour éliminer Remco Evenepoel. Et Remco Evenepoel, lui, a consolidé sa troisième place. Pour moi, peut-être, entre les deux, si je devais les départager, c'est peut-être Remco Evenepoel qui, lui, pensait peut-être pouvoir prendre la deuxième place à Vingegaard. Et là, c'est clair que sa place, c'est sur la troisième marche du podium. Mais je ne vois pas de grands perdants dans les deux-là aujourd'hui.
Ok, donc il n'y a que des winners sur
le
Tour de France.
C'est comme chez Jacques
Martin.
Tout le monde
a gagné, c'est comme dans les élections ou chez Jacques Martin. On va écouter Vingegaard, justement. Il conforte ce que vient de nous dire Jérôme. Il n'a pas perdu aujourd'hui, tout va bien pour lui, Jonas Vingegaard.
Je suis fier de ma course et de celle de l'équipe. L'équipe a couru très fort aujourd'hui. Nous avons rendu la course super difficile, notamment lors de la montée finale. J'étais super fort et j'ai probablement fait l'une des meilleures performances de ma vie. Mais aujourd'hui, Tadej était juste plus fort, donc je ne peux pas vraiment être déçu.
L'une des meilleures performances de ma vie.
Extraordinaire.
C'est un très bon communicant.
On n'a pas parlé des temps d'ascension, puisque les temps d'ascension ont été... Vous vous souvenez, tout à l'heure, vous nous avez dit...
Pantani.
Là, on est en dessous des 40 minutes pour Tadej Pogacar, ce qui signifie qu'on est à 40 minutes pour Jonas Vingegaard.
J'en connais un qui va s'en donner à cœur joie.
Ah ben oui, c'est déjà fait, c'est lui qui a fait le chrono. Donc 39 minutes 48, je crois, ou 46 pour Tadej Pogacar, ce qui fait que... Je ne sais plus combien perd exactement Jonas Vingegaard, mais ça veut dire qu'il fait la montée en 40 minutes et quelques... un peu moins de 41 minutes.
Ils doivent être trois à avoir battu le record.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une mauvaise journée, effectivement, pour Jonas Vingegaard? Qu'est-ce que vous voulez le truc, c'est que ce qu'on n'entend pas dans cette interview, c'est que derrière, il explique que de toute manière, Pogacar est plus fort et qu'il n'y a rien à faire. Et que lui, il a fait le maximum qu'il pouvait faire.
Ouais. Ça donne... Juste quand tu es un grand champion, que tu sors de deux tours remportés... Oui. Dire que t'es satisfait de ta performance alors que tu t'as encore pris une minute dans les dents.
N'oublions pas ce qu'il a dit quand même il y a 3 ou 4 jours où on l'avait vu très ému après sa victoire au Lioran, où il expliquait quand même qu'il y a 3 mois il avait frôlé la mort. Pardon de revenir là-dessus, alors, mais ça me semble quand même.
S'il était arrivé à 100% de sa forme et qu'il prend une claque comme là il n'aurait pas eu le même discours du tout, à mon avis. Et ça n'aurait pas été de la communication. T'arrives prêt comme d'habitude, t'as fait tes courses, t'es passé par le Dauphiné, etc., comme il a l'habitude de faire et à la veille de la deuxième journée de repos, t'es à 3 minutes, ouais, là c'est une claque, là c'est différent. Là, je comprends son interview.
Non, après qu'il nous dise que c'est la plus grande performance de sa vie, il faut pas nous prendre pour des idiots. En revanche, Cyril, on avait dit après le Lioran, quand on l'avait vu en pleurs, attention à la décompression. Moi, je pense que ce jour-là, le Tour de France pour lui était terminé.
Il avait tout validé.
Il avait rempli son défi, c'était de revenir à ce niveau-là après ce qui lui était arrivé. Et on se doutait que derrière, il y aurait la claque. Pogacar.
Alors, il y a une chose que l'on n'évoque jamais, parce que c'est comme ça, les choses ou les informations ou les sensibilités font que Vous parlez toujours de la chute de Vingegaard. Il me semble que Evenepoel était dedans aussi. Mmh. Et qu'il a aussi été blessé. Mmh. Et que,
c'était pas la même gravité de blessure, quand même.
Oui, mais...
Les poumons n'ont pas été touchés.
Non, mais je suis d'accord.
Il a pu recourir. Il a été au Dauphiné, notamment.
Oui, mais il a quand même tapé aussi.
Ah non, mais bien sûr.
Et que,
comme Pogacar l'année dernière, tu as raison. Ouais.
Et à mon avis, le handicap qu'il peut avoir, au minimum, est celui de Pogacar l'an dernier, voire plus. Bon, il a refait un Dauphiné comme il a pu, et tant mieux pour lui. Mais je pense que lui aussi n'est pas à 100% de son potentiel.
D'accord, donc on attend l'année prochaine pour voir les trois fantastiques.
Avec un fantastique qui était à son niveau, en fait.
Oui, parce que Roglic, il était... Oui. Parce qu'ils étaient tous dans le même panier, en fait.
Hein. Et oui, autour du Pays Basque, les trois...
D'ailleurs, Roglic était moins touché. Si on regarde bien...
Mais bon, comme il tombe tous les jours...
C'est Evenepoel qui tombe non pas le premier, mais qui était le premier... du peloton quand il tombe. Parce que là, il y a une chute derrière lui, et suite à la chute qu'il y a derrière lui, lui, il va tomber tout seul, et il va aller s'emplâtrer après sur les arbres.
Alors, le troisième homme, c'est donc Remco Evenepoel. Il termine à 2 minutes 51 de Pogacar. Il se retrouve à 5 minutes 19 au général, et surtout à 2 minutes 10 de Vingegaard. Alors, déçu, là aussi, Remco, ou tu as fait la meilleure performance de ta vie ?
Je pense que c'est clair encore que Tadej, c'est le meilleur du monde. Jonas, il est pas trop loin, mais je pense que Tadej, il est plus fort que Jonas pour le moment. Et puis, à moi, je pense que je suis le meilleur du reste, mais du coup, le tour n'est pas encore fini. Il y a encore des belles étapes et des étapes très dures à passer, mais pour le moment, tout se passe bien, donc je suis content. Et pour le reste, il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler, continuer à pousser les pédales et puis essayer de consolider cette troisième place.
Voilà, je suis content, je suis le meilleur des autres. Bah oui, c'est ça. C'est assez lucide, je
trouve. Il est premier derrière les deux autres.
Mmh. Pour lui, comme pour Vingegaard, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils vont pas arriver, oui. Se mettre à pleurer.
De toute façon, c'est vrai. Et c'était ce qu'on s'attendait au départ. On s'attendait à voir Roglic, meilleur.
Ça déclame,
ne
me choque pas
autres.
Du tout. C'est plutôt Vingegaard qui dit c'est la meilleure performance de ma vie. Là,
ça, c'est de la flûte. Ouais. Il va pas dire autre chose. Mais Remco Evenepoel, il fait un très bon tour. Lui, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est éviter le jour 100 parce qu'il en a déjà connu. Et puis, c'est essayer de maintenir sa troisième place au classement général. Alors, il a de l'avance sur Almeida. On ne sait jamais une défaillance. Et puis, il va essayer d'aller gagner le dernier chrono, bien sûr. Et si pour son premier tour, il a déjà gagné une étape, s'il arrive à en gagner une deuxième et à monter sur le podium, à son âge, c'est quand même énorme.
Ouais. Voilà, on verra ce qui se passera dans cette troisième semaine. On espère aussi que les échappés et les baroudeurs vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, parce qu'une nouvelle fois aujourd'hui, ils ont tenté. Hein, une grosse échappée avec du costaud en plus, hein, oui. Jérôme. Il faut rappeler quand même les noms de ceux qui étaient dans cette échappée.
T'avais deux vainqueurs de Giro, Hindley Carapaz, par exemple, deux anciens porteurs du maillot jaune, Henrik Maas, qui a fait podium à la Vuelta. Il y a du monde. Ceux qui tirent le plus la gueule ce soir, c'est pas Vingegaard ou Evenepoel, c'est les baroudeurs. Hein, ils ont rien. Alors, il y a eu les deux premières étapes, mais après, ils ont rien à se mettre sous la dent depuis un petit moment, parce que les gros, ils viennent et ils mangent tout. Et puis, on a discuté un peu avec Pierre tout à l'heure, avec certains directeurs sportifs, et on disait, bon, au moins, il va y avoir des opportunités dans la dernière semaine. Ils n'étaient pas tous convaincus. Hein. Ils se sont dit, non, nous, on pense qu'ils vont vouloir tout manger. Et donc, ils ne sont pas...
Ils sont gloutons.
Ils sont un peu de l'avis de Cyril. Ils ne sont pas convaincus qu'ils laissent finalement beaucoup de choses aux échappées.
Et puis, certains nous disaient aussi... des anciens coureurs, je ne comprends plus rien à la course. Qu'est-ce qui fait Jonas Vingegaard à donner finalement le Tour de France à Pogacar ? Parce que c'est vrai que je l'ai dit d'ailleurs dans le direct, à un moment, ça a été le poisson pilote aujourd'hui.
Bon, ouais, mais effectivement, il l'a perdu pour la deuxième
place, mais il aurait peut-être pu en faire un petit peu moins.
Mais aujourd'hui, il ne joue pas la victoire. Aujourd'hui, il joue pas la victoire d'étape, Vingegaard. Il joue la consolidation de sa deuxième place. Peut-être que dans la dernière semaine, il va jouer des victoires d'étape, et là, ça va courir différemment.
Et parmi donc les coureurs frustrés, ces grands coureurs qui ont remporté des grands tours, qui ont été maillots de leader sur ces grands tours, Richard Carapaz, que tu as rencontré, Arnaud, on va l'écouter tout de suite.
Ah non, al final, je crois que c'est le Tour de France, non ?
Alors, pas frustré, c'est le Tour de France, ça fait des années qu'on assiste à ce genre de scénario. On s'attendait un petit peu à ce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais bon, on doit continuer à tenter parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. On n'attaquerait pas si on pensait que ce n'était pas possible de gagner. On a tenté, on va encore tenter la semaine prochaine avec, on l'espère, un petit peu plus de succès, nous dit Richard Carapaz.
auront-ils plus de succès et plus de victoires la semaine prochaine, Jérôme ?
Bah, j'espère. Hein. Moi, ça fait tout le week-end pyrénéen que je pensais qu'une échappée allait jouer la victoire. Et les coureurs aussi, d'ailleurs. Parce que quand vous voyez la castagne qu'il y a eu au départ des deux étapes, c'est forcément qu'eux aussi pensaient que l'échappée allait pouvoir aller au bout. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités, mais ça dépendra de Pogacar et de Vingegaard.
Parmi les autres frustrés, il y a les Français. Évidemment, c'était 14 juillet, aujourd'hui, fête nationale. On a rappelé pendant le direct que des Français, par le passé, ont fait briller les couleurs bleu, blanc, rouge sur les routes du Tour. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Il y en avait pourtant deux.
Ça donne pas plus de jambes le 14 juillet
non,
que les Français.
C'est juste que ça te donne plus de réponses à apporter aux journalistes qui viennent te poser des questions.
Plus d'occasion de vous envoyer bouler.
Ouais. Mais non, mais c'est-à-dire qu'avant, il y avait les champions qui gagnaient, quoi.
Mais oui, bien
sûr. Les champions français étaient
là, on en a même
un
pas
peu
parlé.
Plus performants.
On en a même pas parlé.
Ouais. Alors, il y en avait deux quand même dans l'échappée initiale. Ils ont vite explosé. C'était Martinez et Martin, le jeune et l'ancien. Le premier français à l'arrivée ici, c'est Guillaume Martin qui termine 16e. 16e à 38 minutes de Poggi. Alors, est-il heureux ?
Il n'y a pas eu de révolution aujourd'hui pour le 14 juillet. Il n'y a pas eu beaucoup d'espoir non plus. Voilà, très vite, j'ai compris que le seul intérêt d'être dans l'échappée, c'était de prendre une petite marge d'avance au Col d'Agnès pour basculer avec le groupe Maillot Jaune. Donc j'ai géré la montée pour le faire. Et ensuite, je savais copier la montée finale. Voilà, je ferai juste ma montée avec l'objectif d'arriver en haut. J'étais pas dans une grande journée, mais je crois que même dans une grande journée, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Alors je me suis trompé, c'est le classement général où il est 16e à 38 minutes, oui. Là il est arrivé.
Il arrive quand même à 13 minutes 31, c'est quand même énorme et il termine 20e.
Voilà, Guillaume Martin, mais il est à sa place Guillaume, voilà, on sent que ce sera difficile de faire mieux, il continue
plafond
de jouer.
Vert.
Pardon ?
Plafond de verre, je pense,
oui,
pour Guillaume Martin.
Il a atteint depuis un moment, ouais.
Oui, mais est-ce qu'il jouait vraiment le classement général au départ ? Je ne sais pas. Aujourd'hui aussi, je pense que quand il part dans l'échappée, je pense que c'est pour la victoire d'étape, ouais. J'espère en tout cas.
Il lâche vite quand même. Hein. Il lâche très vite.
Hein. Parce qu'après, tu as les jambes ou tu n'as pas les jambes une fois que tu es devant. Il s'est vite rendu compte qu'il ne les avait pas.
Mais enfin, il est aussi dans une équipe où c'est le merdier complet.
Ah oui. Non, mais c'est le bordel dans cette équipe. Ouais. Voilà, le Tour de France, c'est déjà assez dur. Je n'aimerais pas être à l'hôtel avec eux. Le soir à table, ça ne doit pas être fun.
Il doit avoir du mal à t'endormir le soir. Hein.
Ouais.
Enfin, c'est quand même juste, Christophe, assez inquiétant quand même sur la situation des leaders français et de la capacité de voir un garçon un peu plus haut que le top 10, le top 5 dans les prochaines années.
Hein. Ça, c'est vrai. David Godu nous avait donné de l'espoir avec sa 4e place, mais là, c'est quand même décevant.
Très bien. Il a travaillé pour rien, le Jérôme.
Oh, bah, c'est pas ce qu'il avait fait.
On parle
façon.
En même temps que je parle, donc c'est difficile. Jérôme,
je travaille demain, t'inquiète pas.
Tu travailleras
pas,
demain.
Je suis pas en repos.
Tu nous parleras de la dernière
toutes
semaine
les stats
et de tous
demain.
Ces grands moments qui nous attendent.
Oh, quel
il y en aura des grands moments, on l'espère. Merci, les garçons. Demain, journée de repos.
Mais oui,
pas pour tout le monde, puisque Cyril et Jérôme, quand même, vont travailler.
Mais pour nous, ça va nous faire du bien, parce que 15 jours à travailler, à compenser.
À compenser les manquements de nos consultants, c'est ça que tu veux dire. Ah, il est vache. Merci, Pierre-Yves, Arnaud, Jérôme et Cyril. On se retrouve après-demain pour le direct. Ciao.
RMC jusqu'à 20h, l'After Tour.